You are listening to see, I can see it. CKUD in Montreal.
Pangea de Futura is a mega jam collective comprised of many veterans of the Montreal music scene, a wide range of tectonic plates coming together, making the world stop for a second and ripping these continents apart. CKUT 90.3 FM is proud to present their concert in collaboration with CHYZ 94.3 on Sunday, May 22nd at 3 p.m. at the 38th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. For all the details on the 38th FIMAV, visit fimav.qc.ca.
You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
Hello and welcome to Radio by the Viennese Radio Collective from Radio Orange. This time we're presenting Aramesh, a live radio drama play that took place in October 2021 along the Viennese River Danube. Full radio drama was broadcasted live on Radio Helsinki, Freies Radio Graz and Radio Orange on this evening, the 3rd in October, and was located on the Danube in a concrete arena called the Kaisermühlenbucht. It is a wide arena of approximately 100 meter diameter along the Danube River without any basic infrastructure. The elaborate technical setup itself was a challenge, and it took a whole day and half night to set it up and down. The audience had the possibility to listen on the spot or turn on the radio. We made two separate mixes, one for the location and one for the radio. Text itself is based on these interviews taken with approximately 10 people on sound and war, and on the Ursula von der Leyen's speech on the State of the European Nation from September the 15th, 2021. A speech characterized by hegemonic ideas and sometimes almost bizarre worldviews. By October 2021, most of the citizens of the European Union would deny the range of military conflicts on the fringe of our borders, let it be the war in the Ukraine that started on the 24th of February 2022, ongoing pushbacks on our borders, or the failure to render assistance offshore. Aramesh is an artistic work by Lale Rutger-Kiadara and designed in a participatory way. The project team has included the following people: Mana Alita, Vayat Abdul Rahman, Christina Kremer, Mohadise Sirsar, Wolfgang Fuchs, Jun, Abdul Hadi Hashem, Barbara Huber, Lenya Gattmann, Brilfish, Taga Tarasoyan, Nada Afsali, Sama Yassin, Bernadette Schausberger, Jessica Gasper, Angela Schausberger, Afsal Khan, Stefanie Reumann, Christoph Moser, Felix Theile, Pablo Herasti Ferrado, Lale Rutger-Kiadara, Dilaga Miakel, Hakam Alvan, Motus Alkerdi, Saf Abdelrehman, Anna Kana und Maria Danila. You're listening to a shortened version of this radio drama.
Oh, no, 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 einfach allein werken, die da drin will man
Do you remember the first scaring political event in your life? What happened then?
Hey.
Allen Grund zuversichtlich, aber keinen Grund selbstgefällig zu sein. Dies ist eine Investition in Solidarität, aber auch in die globale Gesundheit. Unsere zweite Priorität ist, unsere Bemühungen hier in einem Spiel fortzusetzen. Wir sehen mit Sorge die Unterschiede unter den Menschen. Deshalb dürfen wir jetzt nicht an Fahrt verlieren. Und Spiel ist bereit.
Unterwäsche, wenn wir da hin tun, ne?
Ja.
Männer, Frauen, Kinder getrennt. Sollen wir Miniröcke aussortieren? Weil ich weiß, braucht kein Mensch. Miniröcke aussortieren, ich habe keine Ahnung.
Territory sunflowers, insurgent floor time in real time in the field museum. Bertha Lee and her lyric waves in her urban plain. Up and down the regular highway and every two-tone station, passing through the cure. Preservation to unfold it all away. She put the new thing in the open cell. One more time about the theory of who we are. In the names, away in blocks with double names to interrupt and gather. Kept dancing in tight circles between break and secret. Vaulted with records in our basement, where the long-haired hippies and Afro-blacks all get together across the tracks and they party. Everybody sown like grain and touched in stride. Now the cold new reckoning is tired. Been waiting for a preferential song. The multiplex should be in the frame like bodies in a house way back in the woods. Fled and suspended projects like the real thing. Pose for the midnight trill. Essential shtetl of the world stage, born way before you was born. Move the administered word by breathing. To hand beautiful edge around. just so you know, no one could have told me you didn't want to go outside. This exercise is phonograph to take the receiver and call you for something we hear together. Some of the same stories, some of the same things. To stretch repeats so thin it fades to various is the aim of the phone call. The phonograph is also a photograph of movement and what it bears. You found dancers waiting for dancers. Your silhouette is patient form. I know you can camp. I know you can make it if you try. I'm getting along all right. I say a little prayer. Mama's baby, Sadie Mae, Miss Davis, blue and red. At the duck end, mighty lions roar. You and Bobby Bradford run away together. This earth tone air is B.C. Marx's Pine Bluff, Arkansas. Asleep in new pajamas at the desert end. To walk Joe Williams' peace way home to Wake Ross. You and me against the world. Every time we say goodbye. I'll be seeing you in all the unfamiliar places where they till our long advance. This is the cluster song of our romance.
CKUT 90.3 FM
Thanks to everyone who donated to CKUT's annual funding drive. Your generosity truly helps keep our engines burning. It's never too late to donate. You can do so by calling 514-907-9424 or going to ckut.ca and hit the green Make a Pledge button at the top. All paid entries will be entered into a grand prize draw. You can pay your pledge and pick up your gift weekdays between 11 to 6 p.m. or by appointments. Call 514-907-9424. Thank you.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique de la clinique juridique de Saint-Michel qui traite de profilage racial. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qu'on a eu la chance d'avoir l'année passée également. Donc Bouchra Manaï qui est commissaire aux luttes antiracistes à la ville de Montréal. Donc bienvenue Bouchra, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous.
Donc, comme je l'ai mentionné, on a eu la chance de recevoir Bouchra l'année passée également. Donc, aujourd'hui, on va faire une espèce de petit recap de ce qui a été fait entre-temps, depuis un an, en fait. Mais d'abord, je vais faire une brève introduction de notre invitée. Donc, Bouchra, comme je l'ai dit, elle a fait des études elle a un doctorat en études urbaines, pardon. Également, elle a été chargée de cours, coordonnatrice. Elle a également été directrice générale de Paroles d'exclus. Elle a également écrit un roman qui s'appelle « Les Maghrébins de Montréal » où est-ce qu'elle interroge la relation entre l'ethnicité et ses frontières et définit ainsi la maghrébinité dans le contexte québécois. C'est une militante dans la lutte contre le racisme. Et enfin, comme je l'ai mentionné, elle a été nominée à la Ville de Montréal à titre de commissaire aux luttes antiracistes en janvier 2021. Donc, c'est une invitée, bien sûr, de qualité. On aime beaucoup parler à Bouchra. Et puis, aujourd'hui, on va un peu, c'est ça, démystifier le rôle du bureau de la commissaire et on va parler également de l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en ce sens. Donc, comme première question, Bouchra, en quoi consiste le rôle du bureau de la commissaire?
Alors, merci Lina pour la question. Merci pour l'introduction aussi. J'ai l'impression qu'on est en train d'établir une tradition. J'aime beaucoup les traditions, puis
oui.
Je pense que c'est important d'avoir des moments justement de discussion, d'échange, puis de, tu sais, de retour. On l'avait dit dès le départ, je pense même dès la première rencontre l'année dernière, on s'était dit mais c'est quoi les espaces de conversation pour assurer une transparence sur le travail du bureau. C'est comment on s'assure que les Montréalais de la diversité, puis les Montréalais qui ont parlé à l'OCPM il y a déjà 2 ans, ben eux, ils aient en fait un retour sur ce qu'ils ont évoqué comme étant des enjeux de racisme, puis des enjeux de discrimination systémique dans la métropole. Fait que je suis ravie de le faire avec vous. Peut-être je voudrais mentionner à tout le monde qu'on a publié l'état d'avancement de l'année 2021. Donc l'état d'avancement, c'est... On est parti de toutes les recommandations de l'OCPM, je le rappelle, pour le bénéfice de toutes et tous. L'OCPM, après une consultation publique je pense que c'était quasiment 16 arrondissements, des milliers de Montréalais, ils avaient établi que 38 recommandations étaient, on va dire, le point de départ du travail de l'administration sur les enjeux de racisme et de discrimination. Ces 38 recommandations recouvrent des enjeux très, très, très diversifiés. Je sais que le podcast s'intéresse plus spécifiquement à la question des profilages et des enjeux de sécurité publique, mais l'OCPM a mentionné beaucoup d'enjeux de ressources humaines à la ville de Montréal, des enjeux avec la question de la culture, donc l'équité culturelle, toute la question de l'analyse des données. Donc, comment on s'assure comme administration d'avoir des données avec une perspective ADS+, sur la... et des Montréalaises, notamment issus de la diversité et des populations racialisées. Il y avait tout un volet de participation citoyenne inclusive. Donc, je pense que c'est quand même important de mentionner qu'initialement, l'OCPM a brossé comme une sorte de portrait à partir duquel l'administration devait travailler. Depuis une année, quand je suis arrivée, mon mandat à moi, le mandat qu'on m'a donné en tout cas, c'est un mandat d'accélération de la transformation organisationnelle. La ville de Montréal a reconnu, c'est la première des recommandations de l'OCPM, puis on y reviendra, elle a reconnu la perspective systémique du racisme. Recommandation numéro 1 de l'OCPM, c'est reconnaître que le racisme et les discriminations systémiques donc, sont réelles et factuelles à la ville de Montréal et dans la métropole, et donc travailler en ce sens. L'état d'avancement, c'est un peu une façon aussi de dire au monde, voici tout ce qui a été fait par tous les services. Parce qu'en réalité, le rôle du bureau, c'est d'être comme une sorte de chef d'orchestre. En ce moment, je me sens beaucoup chef d'orchestre avec des gens qui répètent, puis qui doivent préparer, puis qui... Mais en même temps, on écrit en même temps la musique. C'est assez paradoxal parce que dans le fond, c'est un chemin qui s'est fait c'est chemin faisant qu'on amène cette transformation-là. Et le bureau, vraiment, son mandat, c'est d'appuyer les services. C'est de s'assurer que faire se fasse et de s'assurer que les services prennent ça au sérieux. S'ils ne comprennent pas, ben, on est là pour leur expliquer. Et ben, si ça ne marche pas, ben, on est là pour s'assurer que ça marche. Fait que c'est sûr qu'au bout d'un an, y a comme une sorte de bilan qui peut être fait. Puis nous, ce qu'on a sorti, c'est en lien avec les recommandations. Mais je vais être bien honnête avec vous. Ce chemin de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, ce sont des montagnes russes au quotidien. Mm-hmm. Ce sont d'abord des relations humaines, ce sont d'abord des relations de pédagogie, si je peux dire, sur ces questions-là. C'est des relations pour sensibiliser le monde, que ce soit des gens dans les postes de gestion et direction ou des employés, des collègues, dans tous les services. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a ce qu'on est capable de mettre sur papier et il y a tout ce qui est vécu, autant par moi que par l'équipe, comme transformation et comme accompagnement de nos collègues. Parce que cette transformation organisationnelle, c'en est d'abord une qui vise à faire reconnaître la dignité de certains qui ne vivent pas les choses de la même façon.
Absolument. Puis j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes justement que c'est une question de dignité et tout le vécu humain et toutes les relations interpersonnelles et tout ça qui sont mises de l'avant. Puis justement, le document, dans le fond, l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémique, ce que j'aime bien, c'est que c'est divisé en comme 7 thèmes à peu près. Donc, il y a comme la reconnaissance d'abord et gouvernance des enjeux de racisme et de discrimination. On parle d'administration, exemple de racisme et de discrimination, de sécurité publique sans profilage, de l'équité culturelle, comme tu l'as mentionné, une équité territoriale économique, une participation citoyenne inclusive et des recommandations sur les enjeux vécus par les personnes autochtones. Donc, je trouve que c'est un bon... ça fait le tour, là. Donc, félicitations. Et puis, merci. Et puis, justement, la première recommandation, comme tu l'as mentionné, dans le fond, c'est que la ville de Montréal reconnaisse publiquement dans les plus brefs délais le systémique du racisme et de la discrimination et de s'engager à le combattre. Et dans le fond, ça a été réalisé comme recommandation. Donc, tu peux nous parler un peu de comment l'impact global qu'a cette réalisation, parce que c'est la première, mais je trouve que c'est vraiment une...
C'est la plus Elle est importante, forte, quasiment.
Voilà, c'est exactement.
C'est la plus importante. C'est... Tu sais, puis j'aime parler de ces questions-là de la façon la plus humble et de la façon la plus sincère possible. La question du racisme et des discriminations systémiques, c'est une façon de dire que certaines personnes vivent des traumas en raison de la racialisation, qui est un processus social, qui est un processus historique, tu sais, mais ce sont des traumas. Et ce qui se passe avec les traumatismes, c'est que tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne les reconnaît pas, tant qu'on ne nomme pas ce qu'ils sont et les effets qu'ils ont sur les gens, eh bien, c'est très difficile de passer à l'action. Et donc, la première des recommandations, là où elle est très, très forte, c'est que, et pour moi, je vais être sincère là, c'est un de mes outils les plus importants, cette recommandation-là. Parce que la démarche de la consultation citoyenne, c'est ce qui légitime le travail du bureau. C'est ce qui légitime... le bureau, c'est la recommandation 2. Mais c'est la consultation des Montréalais qui légitime mon travail. C'est-à-dire que moi, ce à quoi je m'astreins, c'est qu'on s'assure que les voix qui ont été mentionnées, en fait, qui ont été écoutées par l'OCPM, ces voix-là, elles soient... entendu par l'administration. Donc, dans le fond, moi, je suis comme un espèce d'écho interne et j'utilise beaucoup la phrase « je métabolise » ou « je suis là pour accompagner l'administration à métaboliser ». C'est-à-dire, il faut que ça s'incarne. Et cette recommandation, ce qui se passe, c'est que dans toute institution, dans toute organisation, dans toute entreprise, quand on veut changer une culture, parce que c'est un changement de culture, c'est intense là, tu sais.
Ouais, c'est beaucoup.
Si on ne nomme pas l'élément qui crée en fait du traitement différentiel, on ne peut pas, ça ne percolera pas. Et j'aime beaucoup ta question, j'aime beaucoup que tu commences par celle-ci, parce que par exemple, il m'est arrivé durant l'année, là je vais raconter des petites anecdotes, mais il m'est arrivé durant l'année d'avoir des personnes qui sont très, très frileuses. Et puis, il ne faut pas s'imaginer que ça vient de... Parce que déjà, on a souvent des représentations sur les services qui vont être plutôt en frein. Et ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Hein. Et je me rappelle qu'à un moment donné, c'était une personne, c'était une directrice là, qui était devant moi, puis qui était très, très frileuse face aux... qui arrivait et qui est un changement inéluctable. Moi, je crois que ce changement, il est vraiment juste nécessaire et il est inéluctable. Et je me rappelle que dans une des rencontres où j'arrivais juste plus, ça faisait des heures et des heures, des rencontres avec elle pour lui expliquer. Puis je lui dis, mais est-ce que tu reconnais la recommandation 1 dit qu'il faut reconnaître? Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Et je me rappelle que dans l'échange que j'ai eu avec elle, ce type d'élément est juste fondateur, parce que je pense que c'est ramener les gens à ce qu'ils ne veulent plus peut-être voir ou à leurs angles morts et leur dire « it's not about me ». C'est pas Bochra qui te parle, c'est comme « oublie Bochra ». Bochra, c'est juste de mettre le miroir que la consultation en fait, a permis de révéler. Fait que moi, je trouve que cette recommandation-là, elle est clé. Pourquoi elle est clé aussi? Parce que un changement de culture organisationnelle, ça se fait. Mais si le haut n'entérine pas, si le haut n'adhère pas, si le haut ne valide pas, ne back pas cette transformation-là, c'est très, très difficile que ça percole. Et donc, moi, le pari que j'ai essayé de faire, c'est de dire, ben, c'est venu d'en haut. C'est-à-dire, la direction générale a créé ce bureau. Donc, moi, mon bureau, quand on regarde l'organigramme de la ville, je pense que c'est toujours important de revenir sur des choses comme ça. Structurellement, ce bureau, il est placé à la direction générale. Ce n'est pas un bureau qui est autonome. Moi, je ne suis pas, par exemple, comme l'Ombudsman ou je ne suis pas comme la CFPM qui gère la question de l'inéquité en termes de dotation. Moi, je suis à la direction générale. Donc, dans le fond, il y a la vision pour la ville et moi, dans le fond, il faut que j'incarne toutes les... que j'accompagne et que j'incarne toute la transformation sur les questions de racisme et discrimination. Et le dernier point, c'est que cette recommandation, elle est clé et elle a déjà été intégrée dans la vision stratégique de la ville sur les prochaines 10 ans. Donc la question de la lutte, donc c'est la priorité numéro 8 là, c'est la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à l'intérieur de l'administration et dans la métropole. Et donc ça inclut les questions de profilage, ça inclut les questions d'équité culturelle, etc., etc. Et donc moi ce que je trouve super structurant avec cette recommandation là, c'est que ce qu'on dit, c'est que c'est transversal, ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les individus, ça concerne tous les employés, ça concerne tous les gestionnaires. Et que cette transformation, ce n'est pas vrai que c'est sur les épaules de Boshra et de son équipe. Ce qui est vrai, c'est que c'est collectif, c'est systémique. Et donc, tout le monde peut être aussi quelque part partie de la solution.
Mm-hmm. Je trouve que c'est important de mentionner que justement, ça doit être collectif. Et c'est comme la base, là, la première recommandation. Absolument. Là, c'est absolument. On commence par ça, puis après on peut continuer dans le même sens. Donc absolument. Ça, c'est super absolument. Important. Et puis, concernant d'autres recommandations super intéressantes, il y en a certaines qui sont encore en cours. Donc, je ne sais pas à quel point tu pourras nous donner des détails là-dessus, mais une intéressante, c'est la recommandation 17.
La 17.
Ça, c'est super intéressante.
Une des centrales, une des plus importantes.
Absolument, surtout en termes de profilage racial. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que, c'est ça, la commission, elle estime que le profilage racial et social sévit au sein du SPVM et que ça constitue de la violence dirigée vers certains groupes racisés et vers les personnes autochtones. Donc, la commission recommande notamment, là, j'ai soulevé un point particulier, que la candidature retenue pour le poste de directrice ou directeur du SPVM par la Commission de sécurité publique et le Conseil d'agglomération est proposée au gouvernement du Québec soit conditionnelle à sa reconnaissance et du problème de profilage racial, en fait, sa connaissance et sa reconnaissance de ce problème, et du profilage social également, ainsi qu'à sa maîtrise des compétences nécessaires pour mener un changement de culture organisationnelle. Donc ça, je trouve que c'est très... c'est vraiment marquant, et comme tu l'as souligné, c'est vraiment un changement de culture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver des personnes qui peuvent amener ce changement de culture? C'est quand même beaucoup demandé, mais c'est nécessaire, là, mais... Comment on peut faire ça?
Suivez mon regard, comme dit l'expression. moi, je merci de mettre la lumière sur celle-ci. En fait, celle-ci, elle dit plusieurs éléments. Il y a vraiment comme un volet très intéressant dans celle-ci, parce que ce qu'elle nomme, c'est toute la question de la vie. Mais comment on incarne cette vision en termes de gouvernance? Ce qu'elle dit aussi, c'est comment on incarne ce changement en termes de pratiques organisationnelles, parce qu'elle mentionne aussi tout le volet des formations des policiers, soit à l'interne au service, soit avant que les policiers ne soient recrutés, donc que les cohortes en fait, soient intégrées au SPVM, ils passent par une école, etc. Donc, il y a aussi tout le volet de travail avec la CDPDJ. Donc, cette recommandation, elle inclut vraiment comme énormément de changements. Dans l'état d'avancement, on l'a indiqué qu'elle était en cours parce que si on regarde le volet pratique organisationnel, je vais commencer par celui-là, puis je vais revenir sur ta question juste après. Si on regarde le volet pratique organisationnel, la question du profilage, par exemple, puis là, je reviens à la recommandation 1 aussi, c'est que suite à la recommandation 1, donc en 2020, la mairesse était sortie pour reconnaître et donc pour dire que la ville prenait ça au sérieux et qu'elle allait travailler sur ces questions-là. Et le lendemain, le directeur du service de police de la ville de Montréal, donc du SPVM, qui est Sylvain Caron, était aussi sorti pour dire on reconnaît qu'il y a des pratiques systémiques, qu'il y a des enjeux de racisme et de discrimination systémique au sein du SPBM. Et ça, c'est un move qui est assez important. Quand on regarde les villes d'une manière générale, au Québec, au Canada et ailleurs, il y a eu un problème assez posé de façon assez importante. Et donc, la transformation du point de vue des questions de profilage, la formation sur le profilage, la question de la politique d'interpellation qui a été aussi mise en place tout juste après, là je pense que c'était comme juste, et qui a amené tout le service de police à être formé sur la question des interpellations. Donc d'abord, il y a eu une création de cette politique, puis qui va être en transformation, hein, c'est-à-dire la commission de la sécurité publique, par exemple, a demandé à ce qu'il y ait des sortes d'amendements ou de modifications à cette politique. Dans le fond, on est 2 années plus tard, et on a quasiment, je pense, c'est 4500 personnes qui ont été formées sur cette question-là. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que sur la question du profilage, ça se prend entre guillemets par plusieurs éléments. Ça se regarde par le volet des pratiques policières, donc dans le day-to-day d'un policier, tu sais, dans son interaction avec les citoyens et citoyennes. Et il y a là tout le volet d'accompagnement en termes de pratiques organisationnelles. Donc comment on forme, comment on s'assure que, par exemple, oui à la formation profilage, oui à la politique d'interpellation, mais il y a d'autres façons aussi de s'assurer qu'un policier ou qu'une policière comprenne son environnement urbain. Donc par exemple le SPVM en lien avec d'autres collègues, notamment la collègue qui est commissaire aux relations avec les peuples autochtones, puis je vous invite à l'inviter aussi, c'est vraiment quelqu'un de super intéressant, mais par exemple en lien avec ma collègue qui travaille sur les relations avec les peuples autochtones, les policiers ont aussi été accompagnés pour mieux comprendre les réalités des autochtones en milieu urbain. Donc tu sais, il y a tout le volet de la formation, mais le volet de la formation ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle des pratiques alternatives. Donc comment on s'assure par exemple d'avoir un volet d'intervention, mais qui soit fait de façon mixte avec nos collègues qui travaillent par exemple l'inclusion sociale. Donc comment on s'assure par exemple que dans les cas où c'est de la santé mentale, ou dans les cas où c'est plutôt de l'intervention vis-à-vis de populations urbaines autochtones, mais comment on s'assure qu'il y ait peut-être un mix des deux, que ce soit pas juste que le fardeau. Je ne veux pas parler de fardeau juste en tant que tel, là, mais que, si je peux me permettre, c'est comme si le fardeau ne repose pas seulement sur une intervention policière, mais qu'on puisse en fait prendre cela comme quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus holistique. Fait que les pratiques organisationnelles, là, c'est super important. Ça consiste aussi à se dire comment on répond à nos interventions. Comment, quand on fait de la prévention urbaine, comment peut-être on peut trouver d'autres solutions. Donc, dans la 17... il y a tout le volet formation, il y a tout le volet des pratiques alternatives, et il y a effectivement le volet de comment la question du profilage doit être intégrée dans la vision même de la direction, dans la vision même de celles et ceux qui portent en fait le changement organisationnel. Puis c'est sûr qu'elle est en cours parce que il va y avoir dans le fond, le directeur du service de police, son mandat n'est pas terminé. Donc, c'est sûr que le volet processus de dotation, c'est ce qu'on appelle le processus de dotation, le fait d'aller procéder à une sélection, à une embauche, etc., de quelqu'un, ben, ça, c'est la partie qui s'en vient, puis sur laquelle on est plutôt en cours, en fait. On n'est pas encore, on n'en est pas là encore. Puis sur ce volet-là, ce qui est intéressant, c'est que l'OCPM, ce qu'ils ont préconisé, c'est qu'il puisse aussi y avoir une présentation de cette personne qui sera sélectionnée. Après, il y a des enjeux aussi d'éthique, de confidentialité là, qu'il faut considérer, c'est-à-dire dans un processus de dotation. Mais dans le fond, ce que la recommandation demande, c'est que les citoyens, et notamment la commission de la sécurité publique, puissent avoir une présentation de la vision de cette personne. Donc ça, c'est aussi un moment clé pour se dire, ben, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'elle propose? C'est quoi sa vision pour la sécurité publique montréalaise et pour la diversité des Montréalais qui ont tous besoin d'une sécurité publique? Puis, pour terminer là-dessus, Lina, moi, il y a quelque chose pour moi de très, très important. Je crois que on doit assumer dans une métropole d'avoir une sécurité publique. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut arrêter d'opposer. C'est soit la sécurité publique, soit le profilage. Non, en fait, je m'excuse. On n'a pas besoin de choisir entre les deux. Nous avons besoin que tous les Montréalais se sentent en sécurité. Et nous avons besoin que cette sécurité publique, quel que soit l'acteur qui l'a fait, c'est-à-dire que ce soit la STM, le SPVM, les inspecteurs de l'OMHM, n'importe qui fait de la sécurité publique dans cette métropole, devrait la faire sans profilage et sans discrimination. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de dire la vision que l'on souhaite incarner comme administration, et donc c'est ça qui est une vision de directeur et directrice ou direction, c'est comment on s'assure que la sécurité publique, aujourd'hui, dans une métropole comme Montréal,
en profilage,
surtout que, j'arrêterai là-dessus, surtout que la diversité montréalaise va continuer en augmentant. C'est-à-dire qu'avec le temps, la diversité se diversifie et le nombre de Montréalais issus des populations, soit immigrantes, soit racisées, est de plus en plus important. Fait que moi, je pense que là, il y a quelque chose à considérer, oui, pour les services de sécurité publique, mais pour tout le monde. C'est-à-dire pour moi, la question de la culture, par exemple, ou la question de l'équité économique et territoriale, elle est tout aussi importante que la sécurité publique. Parce que si on veut que notre métropole bascule vers une ville plus équitable réellement et factuellement, ben, il ne faut pas qu'on regarde seulement le racisme à travers un seul prisme. Il faut regarder les éléments qui constituent le fait justement que c'est systémique. Est-ce que absolument, ça répond à ta question ou est-ce que tu veux que je détaille
plus sur... absolument. Okay, absolument, ça répond vraiment bien. Puis je pense que c'est ça ce qu'il faut prendre en note aussi, c'est que la sécurité publique, elle doit être adaptée à la réalité montréalaise et à la réalité des Montréalais et Montréalaises. C'est surtout ça qu'on est en train de dire là.
Exact. Donc, exactement. Elle doit prendre en tout cas acte de cette diversité-là.
Absolument. Puis également, il y a vraiment plusieurs recommandations. J'aurais voulu parler de comme toutes les recommandations. mais je vais en mentionner encore deux qui sont en cours. On pourra en discuter. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, la recommandation 18, parce qu'elle fait référence justement au rapport Harmonie-Hassaoui-Mulonnet, qui est le rapport indépendant, dans le fond, qui nous a appris beaucoup de choses sur le profilage, sur les interpellations policières et tout ça. Donc, la commission, elle fait sienne les 5 recommandations de ce rapport-là et elle prend acte de l'engagement du SPVM de développer une politique en matière d'interpellation, comme on l'a mentionné, et afin d'en chasser les principes anti-profilage dans une telle politique, la commission recommande à la ville de s'assurer que cette politique, notamment, déclare explicitement que le profilage racial et social, c'est une violation des droits fondamentaux des Montréalaises et des Montréalais, et interdisent sous peine de sanction les interpellations policières qui sont fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, la religion, la condition sociale. Donc ça, c'est deux éléments vraiment intéressants de cette recommandation-là. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter sur cette recommandation spécifiquement.
Ben, peut-être ce que je peux mentionner qui sera aussi présenté dans les prochaines semaines, parce que j'aurais dû le mentionner dès le départ, mais dans le fond, on a présenté l'état d'avancement 2021, puis dans les prochaines semaines, on va aller à une discussion publique. Maintenant, c'est officiel, la date, je peux le dire, maintenant la date officielle, c'est le 29, et surtout le 29 mars, ce qu'on va faire aussi, c'est présenter les engagements de la ville pour l'année 2022. Puis là, dans le fond, ce qu'on peut déjà... d'ores et déjà mentionné, parce que ce mandat de chercheur, il est aussi une preuve que l'administration souhaite en fait travailler les enjeux de façon sérieuse. 3 chercheurs ont établi le premier portrait qui est sorti donc il y a quelque temps maintenant, mais il y a un deuxième mandat des chercheurs encore en cours. Et donc, dans le deuxième mandat des chercheurs, l'idée, c'est d'aller voir, OK, maintenant qu'on a fait cette politique, comme je le mentionnais, il y a plusieurs leviers quand on veut faire une transformation. Maintenant qu'on a fait cette politique, comment ça percole? Comment les personnes qui doivent, en fait, dans le day-to-day, la faire ce travail-là, ben, comment elles sont outillées? Dans quoi elles ont besoin d'être aidées? Par qui elles sont aidées? Puis, je souhaite mentionner qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui a été fait à ce propos. C'est que, oui, il y a eu la politique. Oui, tout le monde a été formé au sein du service de police. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'il il a été créé une équipe, ce qu'on appelle une équipe de coach en interpellation.
Mmh, okay.
Cette équipe-là, je ne sais plus, je pense qu'ils étaient, je ne me rappelle plus, mais composée de 4 à 8 personnes, en tout cas 4 à 6. Moi, en tout cas, j'en ai rencontré 4. J'ai bénéficié de la présentation. Et l'objectif de cette équipe, c'est justement d'accompagner les pratiques. C'est parce que ça ne suffit pas de faire une politique puis de former le monde. C'est un peu comme le bureau. C'est de dire, OK, on a reconnu certains éléments qui peuvent nous aider, mais comment on accompagne les gens au quotidien ? Mm-hmm. Quand les gens ont des questions, c'est pour se dire, attends, est-ce que là, je fais la bonne affaire ? Ben, y a qui pour les intéressant. C'est-à-dire que quand on accompagne un changement de culture organisationnelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce savoir et du coup aussi, ben, pas seulement le savoir, mais qui porte aussi l'aptitude à aider les autres à se transformer. Puis là, dans le fond, ce qui va se passer avec le deuxième mandat, c'est qu'il y a aussi tout un travail d'analyse du travail de l'équipe des coachs, et il y a aussi comment les policiers eux-mêmes arrivent à appliquer cette politique. Donc l'idée là, c'est vraiment d'analyser comment ça percole, comment ça va jusque dans les mains de celles et ceux qui sont sur la route, de ceux qui patrouillent. Fait que ça, c'est le volet de la recommandation qui est encore en cours. Donc ça va être durant l'année aussi. Sur cet élément-là, oui, c'est ça. Ce que je voulais mentionner aussi sur cet élément, puis peut-être en lien transversal avec plusieurs des recommandations de l'OCPM qui touchent le SPVM, c'est que oui, il y a le bureau qui a été créé, mais le SPVM, avant même que le bureau ne soit créé, a fait appel.